France Musique. France Musique, les grands entretiens, Thomas Verkracht.
Je m'appelle Philippe Hersant, je suis né à Rome le 21 juin 1948 et je suis compositeur.
Bonjour Philippe Hersant.
Bonjour.
Philippe Hersant, vous êtes né en 1948 à Rome. Est-ce que c'est un lieu qui est toujours important à vos yeux ?
Extrêmement important, oui. Il n'y a pas une année où je ne retourne pas à Rome, pour quelques jours ou un peu plus. J'ai d'ailleurs été lauréat de la Villa Médicis, donc j'y ai passé 2 ans. Je suis quand même resté jusqu'à l'âge de 3 ans et demi à Rome, donc mes premiers souvenirs très brumeux sont des souvenirs romains. Et c'est une ville qui compte énormément dans mon cœur, même si ses souvenirs d'enfance sont vagues. Mais je peux pas voir un pain parasol sans avoir une boule dans la gorge, ou voir un film italien des années 50. Surtout, je suis très attaché à la périphérie de Rome, curieusement. C'est-à-dire des zones non touristiques, mais bon, je suis né sur le Monte Mario, qui est un peu en dehors du centre. Voilà, mais les premières images de ma vie, voilà, c'est ce contexte-là, les maisons cossues, les champs avec des moutons. Voilà, tout ça est resté très présent dans mon cœur.
Alors donc, vous êtes né à Rome, vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie ?
Alors, mon père était journaliste et il a été recruté, disons, par l'UNICEF en 47, je crois, pour s'occuper du ravitaillement des enfants italiens. Bon, la situation économique était terrible, il y avait une malnutrition évidemment très très forte dans l'Italie d'après-guerre. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à Rome pendant 4 ou 5 ans.
Et votre mère ?
Et ma mère ne travaillait pas à l'époque, ensuite elle était traductrice d'anglais, mais là elle élevait sa famille.
Vous avez été suivi
par d'autres parents ? Je ne suis pas du tout né dans une famille de musiciens. Ma grand-mère maternelle avait fait un peu de piano, mais c'était une femme très discrète, elle en parlait très peu. Mon père n'aimait pas la musique, je peux dire carrément, aucune musique. Ça lui était totalement étranger. C'est un peu par hasard, pas seulement par hasard, mais aussi par la volonté de ma mère, qui, ayant senti très vite que j'aimais ça, s'est vraiment débrouillée pour que j'étudie la musique et elle y a vraiment cru. Et donc c'est par volonté de ma mère et par bienveillance de mon père, qui n'approuvait pas, mais qui a quand même financé les études, même s'il craignait que ça ne me mène à rien.
Et justement, je sais que vous avez pratiqué le piano. Comment il est arrivé, le piano, dans votre vie ?
Je crois que c'est une institutrice qui avait dit à ma mère, écoutez, il a l'air d'aimer beaucoup la musique, pourquoi vous n'essayez pas de lui faire du piano ? Donc ma mère a vu une petite annonce chez le boulanger du coin, et donc je me suis retrouvé chez une jeune fille qui était un professeur formidable, c'est-à-dire en fait elle m'a tout appris, elle s'appelait Madame Doury. Ensuite elle a épousé donc Monsieur Doury, qui était un organiste, qui était longtemps directeur du conservatoire de Saint-Maur. Et cette jeune femme, elle devait avoir 20 ans, 22 ans, m'a appris à la fois le solfège, le piano, et a guidé mes parents dans mes études musicales. J'ai jamais été dans un conservatoire de quartier, il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs dans les années 50. Donc voilà, elle me faisait faire les dictées, le solfège, tout. Et elle devait être un excellent prof, parce que je ne me souviens pas avoir appris mes notes ou avoir appris le solfège. J'avais pas une passion pour le piano, à vrai dire. Dès que j'étais tout petit, j'avais envie d'être compositeur. C'est la première chose que je voulais faire, oui. C'était pas être pianiste, c'était pas être chef d'orchestre. C'était écrire de la musique. Vers l'âge de 15 ans, j'étais beaucoup moins sûr de ma vocation. Mais en tout cas, quand j'étais petit, elle était là.
Alors vous avez été chez cette jeune femme très tôt, et puis après vous avez étudié le piano chez Lucette Descaves. Qui c'était cette personne ?
Alors Lucette Descaves, c'était une élève de Marguerite Long, qui n'a pas fait une carrière de pianiste énorme, bien qu'elle ait créé notamment le concerto de Jolivet. Elle a fait quelques enregistrements, les Nuits dans les Jardins d'Espagne, des Falla, mais elle n'a pas une discographie énorme. Par contre, c'était quelqu'un de très important dans l'enseignement du piano, professeur au conservatoire de Paris. Et elle avait toute une ribambelle d'élèves. Jean-Anne Kefelec, Alice Adair, Olivier Greff, sont des gens que j'ai croisés ou chez Lucette Descaves.
Et est-ce qu'elle avait une pédagogie particulière, cette femme ?
C'est-à-dire que moi, j'ai pas été dans sa classe au conservatoire, je me suis jamais présenté. J'avais des cours particuliers tous les jeudis, non, un jeudi par mois. Je venais jouer mon petit programme, j'avais une répétitrice, mais disons qu'elle contrôlait un peu les choses, mais je peux pas dire que j'ai vraiment suivi l'enseignement de Lucette Descaves. C'est sur les recommandations de Madame Doury, donc qui est une de ses élèves, donc la dame qui m'a appris la musique, que je suis allé chez Lucette Descaves, mais je peux pas dire que j'ai vraiment suivi son enseignement. J'avais des profs de piano qui venaient toutes les semaines régulièrement. C'était plutôt du côté des répétitrices que le travail se faisait. Elle supervisait, disons. Mmh.
En tout cas, vous venez de dire que dans sa classe, vous avez croisé le chemin d'Olivier Greff, avec qui vous avez été lié plus tard. Est-ce que vous avez des souvenirs, justement, du jeune Olivier Greff ? Parce que là, vous aviez quel âge, en fait ?
J'avais 8 ans, il en avait 6, quand on a dû se croiser pour la première fois, dans ces jeudis, parce que c'était jeudi, oui, le jour où il n'y avait pas école, à l'époque. Mmh. Il était extrêmement doué. Mais vraiment, aussi bien pour le piano que pour la composition. Il énervait un peu tout le monde d'ailleurs, parce que c'était un peu le chouchou de Lucette Descaves aussi. Non, il était impressionnant, Olivier. De maturité, déjà de technique pianistique, tout simplement. Hein.
Est-ce qu'à l'époque, vous composiez déjà ?
Oui, j'ai retrouvé des petits morceaux écrits à l'âge de 6-7 ans. Une sonate pour piano-violon, notamment, où le violon ne joue pas une seule note, parce que j'avais aucune idée de ce que pouvait faire un violon.
Il n'y avait pas déjà quelque chose qu'on pourrait hypothétiquement retrouver dans des œuvres futures ? C'était vraiment des...
Je me suis amusé tout récemment, comme j'ai classé mes papiers pendant le premier confinement. J'ai retrouvé un morceau que j'avais écrit à 11 ans. Et comme l'ensemble Ars Nova m'a passé commande, je me suis amusé à reprendre les premières notes de ce morceau où il y avait une idée au départ, mais ça tournait très vite court. Je me suis dit, bon, je vais terminer 60 ans, 65 ans plus tard, ce petit morceau.
C'est une double barre.
Voilà.
Et pourquoi ne pas avoir persévéré, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, dans le piano ?
Alors, j'ai continué, j'ai travaillé mon piano, disons, jusqu'à l'âge de 18 ans, à peu près. Mais j'ai jamais voulu rentrer dans la classe. Ça n'a jamais été mon but. Un petit peu, un moment, parce que j'étais un grand fan de Giorgi Tsifra. Donc, vers l'âge de 14-15 ans, je m'étais mis à étudier très, très sérieusement le piano. Mais ça n'a jamais été vraiment mon but, mon objectif.
Donc, c'est-à-dire que quand vous écrivez pour piano maintenant, il n'y a pas une espèce de tendresse particulière pour l'instrument ? C'est un instrument comme un autre ?
Si, bien sûr. Si, c'est le seul instrument dont je sache jouer, malheureusement. Mais si, bien sûr. Mais non, j'ai pas eu l'envie de m'astreindre à travailler des heures et des heures le piano.
Mais là, on a presque l'impression que entre le piano, le solfège, il n'y avait pas de véritable volonté derrière tous ces faits, de manière très comme une évidence un petit peu.
Mais oui, c'est vrai. J'ai souvenir d'avoir peiné au piano sur certains morceaux, mais j'ai jamais souvenir d'avoir peiné sur le solfège à cette clé ou jamais, vraiment, ou encore moins les dictées.
C'était un vrai plaisir.
Je ne sais pas si c'était toujours un plaisir, mais en tout cas, ça n'avait rien de pénible, ni de laborieux.
Alors après avoir étudié le solfège de manière très naturelle, pour un jeune étudiant en musique, on étudie souvent l'écriture, l'harmonie, et que vous avez pratiqué aussi au Conservatoire de Paris. Est-ce que vous avez des souvenirs de la classe d'harmonie ?
Alors je suis rentré dans ce qu'on appelait une classe probatoire en harmonie, donc juste après la médaille du solfège, donc je devais avoir 12 ans. Et là, j'avoue que l'harmonie, ça me dépassait complètement. J'avais pas l'âge encore pour pouvoir rentrer en classe préparatoire d'harmonie. Donc, c'était une sorte de limbe où on mettait les élèves trop jeunes. Et ça me passait un peu à côté. Donc, Hugon m'a dit il faudrait qu'il prenne des cours avec une dame. Alors, j'étais chez une vieille dame qui s'appelait Marie-Rose Hublet, qui était un personnage absolument extraordinaire, qui avait connu Debussy. Elle promenait sa fille Chouchou dans le parc Monceau. Et elle m'a appris l'harmonie. Pendant 3 ans, je suis resté sur l'accord de quarte et sixte, parce qu'elle me disait, tant que vous n'avez pas compris cet accord, c'est pas la peine d'aller plus loin dans le traité. Ça correspond au chapitre 2, je pense, du traité d'harmonie. C'était un excellent professeur, mais c'était un peu triste. Disons, j'étais tout seul chez elle. Je restais 2 heures. C'était une dame qui avait un caractère de cochon, selon ses propres dires, mais qui connaissait énormément de choses, qui m'a ouvert sur... Je m'en rends compte maintenant, elle m'a ouvert sur énormément de choses. Elle connaissait parfaitement la musique de Gustav Mahler, qu'on jouait très peu à l'époque. Elle se passionnait pour la musique ancienne, pour Rameau, pour Couperin. Je me souviens, elle avait... Un de ses élèves s'appelait Antoine Geoffroy de Chaume. Il a écrit un livre qui s'appelait « Les secrets de la musique ancienne ». Il a écrit ça au début des années 60. Et à une époque où on ne s'intéressait pas du tout à la musique baroque. Et on m'a dit, voilà ce qu'il a écrit, mais que tout le monde s'en fout de comment on doit jouer la musique ancienne. Bon, heureusement, l'avenir lui a donné tort. Mais voilà, elle m'a ouvert l'esprit, alors que, a priori, c'était des cours... c'était assez triste quand même d'être tout seul avec une vieille dame pendant 2 heures. Une vieille dame qui remâchait ses aigreurs. Je lui dois vraiment énormément, parce qu'elle m'a donné des bases dans l'écriture harmonique, des bases extrêmement solides. Et elle a eu raison d'insister, de ne pas me faire travailler à toute vitesse le traité d'harmonie, mais vraiment d'en comprendre les bases.
Votre goût pour la musique ancienne, du coup, il vient de là, en fait ?
C'est la première fois que j'ai entendu parler de comment il fallait jouer les ornements au clavecin. Elle me dit, on joue Rameau n'importe comment. Elle avait absolument raison. Hein. Mais moi, je connaissais pas du tout cette musique, mais... J'avais toujours la curiosité d'écouter ce dont elle parlait. Moi, je connaissais rien en musique. Je dois vous dire, je connaissais ce que je jouais au piano. Je connaissais Chopin, Liszt, Beethoven. Enfin, ça s'arrêtait là, à peu près. Mes parents n'étant pas particulièrement mélomanes, j'avais quelques disques à la maison. Mais enfin, donc cette dame m'a beaucoup ouvert l'esprit, parce qu'elle me parlait aussi de Schoenberg, qu'elle aimait pas du tout, mais enfin, elle connaissait très bien. Et j'ai vu que l'histoire de la musique, ça se bornait pas aux petits morceaux que je jouais dans mon coin pour Lucette Descaves.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Philippe Hersan.
Le but de l'harmonie, le but des études d'écriture, c'est souvent d'apprendre à maîtriser un style, d'écrire des sortes de petits pastiches. Est-ce que c'est quelque chose qui a été important du coup pour vous, ça ou
pas du Alors, on n'en était pas là avec l'enseignement de Mademoiselle Hublet, c'était vraiment très rigoriste.
Les styles n'avaient pas de...
Non, avec elle, on n'abordait pas tellement le style, du moins dans mes travaux, mais elle m'a appris beaucoup de choses, elle m'a appris la rigueur, elle m'a... Il y a une anecdote qui m'est revenue il n'y a pas longtemps. Elle me disait un jour, chantez-moi le... Mais vous voyez bien, j'avais 14 ans, mais bon. Chantez-moi le thème de l'apprenti sorcier. Alors, je lui dis, papa, elle me dit non. Je lui dis, comment ça, non? Elle me dit, non, ce n'est pas exact. Alors, je lui dis, bon, elle devient gâteuse. Donc, je refais, bah si, c'est papa. Elle me dit, non, rentrez chez vous, réécoutez. Je reconnais l'apprenti sorcier, mais ce n'est pas exact. Et en allant sur le chemin du lycée, j'ai dit, je crois que j'ai compris. Donc je... Alors elle me dit, alors, le thème de l'apprenti sorcier, je lui dis, oui, c'est pam, 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 pam. Elle me dit, ben voilà.
L'importance du détail. Philippe Hersan, toujours à l'époque, vous composiez à côté un petit peu? Ou toujours, c'était toujours dans l'apprentissage purement de la technique et vous ne posiez pas encore la question?
J'ai écrit surtout quand j'étais en classe de solfège. D'accord. J'ai écrit pas mal quand j'avais 11 ans. Je m'inspirais beaucoup des solfèges de Dandelou. Ou de, c'était pas vraiment de la grande musique. Après, non. Mais c'est-à-dire que vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à perdre la foi en mes capacités de compositeur. J'étais plus du tout sûr que j'arriverais à faire quelque chose. J'avais pas d'idée, j'avais pas de... Donc, à partir du moment où j'ai vraiment travaillé l'écriture, j'ai cessé de composer même des petits morceaux. Donc, j'ai pratiquement rien écrit entre 12 ans et 20 ans.
Et vous êtes intéressé à d'autres arts à ce moment-là, la littérature, le cinéma?
Alors oui, effectivement, la peinture, tout ça, du point de vue-là, c'est vrai que c'est une période où je me suis beaucoup cultivé, j'étais même complètement boulimique. Ça allait dans tous les sens, c'était ça un peu le problème. À vrai dire, j'ai lu, mais énormément, Tolstoï, Dostoïevski, Balzac, mais la plupart des livres que j'ai lus à l'époque, je n'en ai pas vraiment de souvenirs. Ça se gravait pas à l'intérieur. Mais il y avait une envie, une boulimie. J'ai passé un mois à Florence à visiter absolument tous les musées, tous les lieux. Et voilà, c'était boulimique, pas forcément très approfondi. Et parfois, oui, quand même.
Est-ce qu'il vous reste des fragments de cette boulimie maintenant?
Ah oui, bien sûr, oui. Ça m'a formé complètement, ça c'est sûr.
Pour toutes les formes d'art ou juste pour la musique?
Pour
du
toutes,
coup,
les formes d'art.
Toutes les formes d'art.
Oui, oui. Non, c'était très extrêmement formateur, mais un peu brouillon. Bon, après, on approfondit, mais je ne regrette pas du tout cette boulimie. Il y a eu une curiosité insatiable. Mais j'avais un frère très littéraire, que j'admire beaucoup. Et j'étais pendant un moment presque plus attiré vers la carrière littéraire, donc quand j'avais 15 ans, 16 ans, que vers la carrière musicale. Peut-être dans l'imitation de mon frère, qui a 4 ans de plus que moi.
De devenir auteur?
Oui, ou professeur de lettres. Ou bon, donc je me suis inscrit à la fac de lettres de Nanterre, j'ai passé une licence. Je poursuivais la musique, mais après l'enthousiasme de la petite enfance et les doutes ont commencé à surgir de façon très, très forte, de plus en plus forte d'ailleurs. Et c'est vrai que vers 23-24 ans, j'ai pas abandonné la musique, mais enfin, ça n'était plus tellement mon objectif premier. Il y a vraiment une coupure, disons, à l'adolescence. Et il m'a fallu une bonne dizaine d'années pour remonter la pente, si on peut dire.
L'Infinito, une pièce pour chœur de Philippe Hersant, ici chantée par le chœur Musica 13, dirigé par Roland Herabédian. Prise de son Valérie Lavalard, mixage Philippe Thibault, réalisation Christine Amado. Réécoutable et podcastable sur le site francemusique.fr. Rendez-vous demain pour le deuxième épisode.
À réécouter sur francemusique.fr.